Chapitre 15. Cette liberté recouvrée, je ne vais pas en profiter longtemps. J'en ai fait la mauvaise idée de retourner à la gare, au lieu de m'évanouir dans Prague, et je me retrouve presque instantanément entouré de messieurs en gabardine, nettement moins courtois que leurs collègues précédemment. Cette fois, on m'empoigne par le bras, sans un mot, et l'on me pousse sans ménagement dans la voiture. Encore une Citroën. Le parcours n'est plus le même, puisque je me retrouve bientôt devant la porte de la sinistre prison de Pancrace, dans la banlieue de Nousselet, dont j'ignorais le nom jusqu'avant-hier, en apprenant que Aloïs Elias venait d'y être exécuté. Franchir pour la première fois de sa vie le porche d'un centre de détention fait naître inévitablement une foule d'inquiétudes. Les gestes les plus insignifiants, comme de retirer ses lacets, de se défaire de sa cravate et de ses papiers d'identité, deviennent d'un coup d'humiliantes formalités, comme une réduction progressive de l'individualité. Je n'y échappe pas, et après une halte au greffe, je repars, cette fois-ci menottes aux mains et toujours sous la conduite des SS. Mes accompagnateurs me conduisent dans une cellule où gît sur sa couche un homme qui nous tourne le dos et reste parfaitement immobile lorsque la porte s'ouvre. Un des sbires me désigne sans un mot ma couchette, y jette une couverture, un misérable bout de savon et sort. Lorsque j'entends claquer la serrure, je prends subitement conscience de ma détresse. Comme s'il attendait ce moment, l'homme se retourne. Âge indéfinissable, cheveux gris, mise modeste, il se borne à porter l'index devant sa bouche pour me signifier que nous sommes écoutés. J'acquiesce de la tête pour ne pas tomber dans la vraisemblance et je le gratifie d'un bonjour en tchèque auquel il répond en se levant péniblement et en me tendant la main. Arthur London. C'est depuis ces quelques heures vécues en compagnie de la Gestapo, le premier geste d'humanité que je reçois. Je me présente à mon tour et sans trop savoir pourquoi, ce nom m'interpelle. Soudain, je réalise. London, Londres. Je me rappelle des sombres prédictions d'Honorius. En été 42, rester éloigné de Londres, à tout prix. Et voici que je partage une cellule de la Gestapo avec un dénommé London. Dans les 3 mètres carrés de notre cellule, difficile de l'éviter. Encore une fois, Honorius avait vu juste, et cette constatation me glaça le sang. Sans pouvoir la contrôler, une montée de larmes me submerge et je sens le piège se refermer sur moi. J'essaye de toutes mes forces déclinantes de reprendre mes esprits et de ne pas sombrer dans le désespoir. Manifestement, mon compagnon de cellule est mal en point. Il peine à se tenir debout, tangue et finit par se laisser tomber sur son lit. Je réalise alors au prix de quels efforts il a voulu me saluer et je l'aide à se coucher. Il souffre au niveau des genoux et des épaules, cela se voit, et il porte derrière la nuque des marques brunes comme s'il avait subi un commencement d'étranglement. Je l'installe du mieux que je peux, cale sa tête avec ma propre couverture et m'assieds à son chevet. Je reste ainsi un long moment dans le silence, aussi finit-il par s'endormir, réconforté, je l'espère, par cette présence amicale. Puis je me lève aussi doucement que possible et regagne ma couchette. J'ai dû également sombrer dans le sommeil, car je sursaute quand la porte s'ouvre. C'est un prisonnier qui entre, surveillé par un garde, qui ne franchit pas le seuil. Il porte une gamelle, une seule, à demi pleine, d'un liquide clair et meuletant, une cuillère plongée dedans. Puis, il me tourne le dos et ressort. Et lui, ai-je le temps de demander, avant que la porte ne se referme? Il n'en a pas besoin, répond le SS avec un mauvais sourire. Je ne sais ce qui me révolte le plus, de l'arrogance de mes geôliers, ou de ma propre stupidité, d'avoir cru, ou même plus ou moins adhéré, à l'image flatteuse du Troisième Reich. Il faut que je m'inscrive moi-même parmi les victimes pour que m'apparaisse le vrai visage des bourreaux nazis. Parmi ceux-ci, mon ami Reinhardt, qui agonise dans cette même ville, probablement ignorant de ce qui m'arrive, mais malheureusement concepteur et complice de la machine qui vient de me happer. Je n'ai pas faim, mais ce n'est pas cela qui m'amène à m'agenouiller près de mon compagnon de malheur et à essayer de lui faire avaler, cuillère après cuillère, la soupe bien peu consistante mais chaude qui m'était promise. À son tour, il se met à pleurer à petits coups. Il laisse échapper ainsi un peu de son émotion, soulagé de réaliser que l'homme qui vient de lui donner du réconfort gardera pour lui cette montée de faiblesse. Je lui prends les mains et murmure aussi bas que je peux. « Détendez-vous, laissez-vous aller, cela vous soulagera. » Puis je le laisse et vais m'allonger sur le bas-flanc qui me fait office de lit. Nous restons ainsi un très long moment, proche et cependant lointain, chacun aux prises avec ses pensées, ses angoisses, et aussi parce que l'homme ne peut vivre autrement, avec ses espérances. La porte s'ouvre avec fracas, bien entendu. C'est à croire que nos geôliers sont dotés sur leur capacité à faire du bruit, à déranger et, s'il se peut, à terroriser. Deux hommes, deux brutes, devrais-je dire, font irruption dans la minuscule pièce qu'ils emplissent de leur carrure et de leur détermination. Ils vont directement à mon compagnon d'infortune, s'en saisissent en l'arrachant à son lit et le traînent sauvagement en dehors de la cellule. Il étouffe un cri qui se transforme en râle et, tel un fantôme, glisse sur le ciment, laissant échapper une coulée de sang. Je ne le reverrai plus jamais. Je suis plus bouleversé par cette scène de cauchemar que par ma propre situation. L'horreur me saisit de cette brutalité que je ne croyais possible qu'en Union soviétique. Comment mes amis allemands peuvent-ils se comporter de la sorte? Comment les excès verbaux de leurs dirigeants peuvent-ils se traduire ainsi en cruauté bestiale, en inhumanité absolue? Je réalise que le rideau se déchire et que c'est le vrai visage du nazisme qui apparaît. Du coup, les palinodies ridicules des fascistes italiens ou des Français de la cagoule m'apparaissent comme des jeux d'enfants, certes idiots, mais bien inoffensifs. Tandis que je découvre toute cette froide cruauté, je me raccroche à l'idée que ni Hitler ni Reinhardt ne réalisent à quel point leurs ordres sont outrepassés, ni combien ces excès de zèle et ces déchaînements de violence trahissent leur idéal. Je veux croire à un monstrueux malentendu, et pour ce qui me concerne égoïstement, à une méprise dont je serai bientôt lavé. Encore que je doute, au fond, que l'image de cet homme, traîné hors de sa cellule, ne s'efface jamais de ma mémoire. J'ai dû encore m'endormir, car c'est à nouveau un SS que j'avais déjà aperçu qui entre dans la cellule. Il est tout jeune, guère plus de la vingtaine, l'âge que nous avions, Maria et moi, lorsque nous nous sommes rencontrés à l'Opéra de Paris. L'envie me vient de lui adresser la parole et de tenter ainsi d'humaniser notre relation. Je commence, le plus banalement du monde, à lui demander l'heure, étant donné que l'on m'a privé de ma montre. Sèchement, avec un aplomb tout à fait étrange pour un garçon de son âge, il me signifie qu'il n'est pas autorisé à me parler, sauf pour les besoins du service. Ce disant, il me tend un balai, une serpillière et m'ordonne de nettoyer ma cellule. Tandis qu'il me donne ses instructions, je surprends son regard qui va d'une couchette à l'autre, puis brusquement. « Où est votre couverture ?»« Je l'ai prêtée à l'homme qui était ici. Il l'a prise avec lui. Vous n'aviez pas le droit. Tant pis pour vous. Vous n'en aurez pas d'autre. » Sur ces paroles, il se retourne et fait un signe, un détenu apparaît alors, qui se saisit du maigre paquetage de mon compagnon de cellule et disparaît. Heureusement que nous sommes en juin. Quelques jours s'écoulent, vides, désespérément vides. J'ai perdu la notion du temps, de l'heure, de la date, et comme je n'ai rien à lire, rien à faire, aucun moyen d'écrire, une nourriture à la limite de la survie physiologique, je ne peux que plonger dans mes souvenirs ou imaginer des scénarios. Même si le jeune geôlier ne me rend visite que très rarement, je me doute bien que je suis surveillé jour et nuit. Ma vie est celle d'un animal sauvage pris au piège, même pas celle d'un rat qui trouverait bien le moyen de s'échapper de cet univers clos. Je ne suis donc pas en mesure de dire, ne serait-ce qu'approximativement, quand a cessé cet isolement absolu. Je sais en revanche que mon retour à la vie date de cet instant où la porte s'ouvre sur un officier SS qui, après m'avoir longuement dévisagé, me déclare sentencieusement. « Vous allez être confronté à vos complices, monsieur, et je ne vous souhaite pas bonne chance. Veuillez me suivre. » Il me tourne le dos, puis d'un coup fait volte-face et me lance en pleine figure. « Au fait, votre ami Heydrich est mort, mort et enterré. » Je reçois cela comme un coup de poing et mon visage, déjà pâle, se décompose complètement. C'est ce que me dira beaucoup plus tard un témoin de la scène. Je titube et hasarde quelques pas mal assurés. « N'en faites pas trop tout de même, monsieur le baron. Nous savons très bien à qui nous avons affaire. » Je comprends que ma cause va être bigrement difficile à plaider. De la prison Pancrace, je suis acheminé jusqu'à un immeuble du centre-ville de Prague où la Gestapo a installé une de ses nombreuses succursales. Le nombre de ces officines où la recherche du renseignement se pratique de façon musclée m'a toujours étonné. Au jour où j'en suis devenu le client, le patient plutôt, mon étonnement devrait le céder à l'angoisse, mais il n'en est rien. Je suis presque heureux de revoir à travers les épais grillages de la camionnette le spectacle de ces gens qui vont et viennent sans se douter que le misérable qui passe au milieu d'eux dans cet équipage était, il n'y a pas si longtemps, un personnage respectable et redouté. Envieux de leur sort, car aucun ne me paraît tomber d'aussi haut, j'essaie tout de même de me concentrer sur ma défense, car il va me falloir me défendre devant mes accusateurs, nécessairement peu disposés à me croire. La seule relative fierté que je pourrais retirer de ma situation, c'est tout simplement d'être seul dans ce fourgon et de bénéficier d'une escorte aussi impressionnante. Le traitement de faveur ne se dément pas. Mon équipage entre discrètement dans le garage d'un immeuble que, dans ma position, je ne parviens pas à distinguer entièrement, et quand il stoppe et que la porte s'ouvre, ce sont les visages peu avenants de plusieurs Waffen-SS en uniforme qui s'inscrivent dans mon champ de vision. Quant au cérémonial, il est immuable, précis, ordonné. Rien de ce qui se fait ici n'est improvisé. Les saluts bras levés s'échangent allègrement et lorsque les talons claquent, signe d'une marque de respect plus appuyée, il doit être considéré que le personnage est d'importance. J'ai eu maintes occasions de recevoir de telles marques de respect et je n'y ai jamais prêté attention. Aujourd'hui, je les trouve ridicules et leur côté mécanique m'insupporte. Pas d'attente. Dans le cabinet où je suis introduit, deux hommes en civil, d'à peu près mon âge, discutent debout dans l'embrasure d'une fenêtre. Ils fument tous les deux. À mon entrée, ils se retournent, échangent un regard, que je suppose être de connivence, et viennent s'asseoir à la table qui occupe le centre de la pièce et sur laquelle est posé un épais dossier. Je ne suis pas invité à m'asseoir, il n'y avait même aucun siège prévu à cet effet. Nous ne sommes évidemment pas réunis pour faire la causette, mais pour tirer au clair les agissements du sieur Gottfried von Adler, ci-devant baron et banquier de son état. « Monsieur von Adler, vous venez fréquemment en Allemagne, n'est-ce pas ?» Je ne réponds pas. « Puis-je vous demander ce qui explique cet intérêt pour notre pays ? L'Allemagne ne représente aucun intérêt pour un financier. Vous vous trompez. Il faut bien que je réponde. Je ne suis pas éloigné de penser qu'il me provoque. L'Allemagne offre de belles opportunités financières et j'ai donc décidé d'y investir. » Investir? Comment cela? Y avez-vous des succursales? Seulement un bureau de représentation à Berlin. Mais il n'est pas nécessaire de posséder des établissements pour réaliser des affaires. Laissez-moi vous expliquer. Je vous écoute. Je me lance alors dans un vaste exposé dont il ressort que la banque von Adler s'intéresse au secteur clé de l'économie allemande et en première ligne à celui des aciers spéciaux et des métaux rares. Je leur explique que je rencontre des capitaines d'industrie et leur propose des financements. Combien avez-vous investi? Je n'ai pas le droit de vous le dire, mais le chiffre se calcule en centaines de millions de marques. Soyez plus précis. Encore une fois, je n'y suis pas autorisé. Vous ne manqueriez pas de me demander d'où viennent ces fonds et où précisément ils s'investissent. Exactement. Alors imaginez que quelqu'un vous demande des renseignements sur le Reichsführer. Répondriez-vous? L'homme a un haut le cœur. Cela n'a rien à voir. C'est exactement pareil. Le second de mes vis-à-vis qui s'est tu jusqu'à présent intervient. Ne recevez-vous pas des fonds en provenance d'Allemagne? Je vous fais la même réponse. Des fonds juifs, par exemple. C'est presque drôle. Ils ne peuvent pas savoir. Ils tapotent alors le gros dossier. Nous avons des aveux. Obtenus spontanément, je présume. Son regard se fait mauvais. Que sous-entendez-vous? Rien du tout. Je connais seulement l'hypocrisie juive et je pense que ce n'est pas très raisonnable de leur faire confiance. Que certains d'entre eux m'aient dénoncé auprès de vous n'aurait rien d'étonnant. Tout le monde sait que le Reich protecteur était mon ami. Était, c'est vrai, était. Cela me fait tout bizarre. Je ne réalise pas bien. On vous a laissé le temps de vous faire à cette idée. Je ne m'y ferai jamais. Numéro 1 soupire ostensiblement. Je n'essaye même pas de scruter son visage. Il reprend. Nous savons que vous connaissez un certain Honorius, un Suisse comme vous. Or, cet Honorius est l'instigateur de la fuite de Rudolf Hess en Écosse. Il a avoué que vous aviez joué un rôle décisif dans ce complot imbécile. Cette fois, vous ne pouvez pas vous retrancher derrière le fait qu'il soit juif. Il est parfaitement exact que je connais Honorius, mais j'ignorais qu'il avait pu inspirer Rudolf Hess en quoi que ce fût. Vous avez fait pire, vous l'avez financé. Il n'avait nul besoin de mon argent. Honorius était riche. Comment le savez-vous? Rugit numéro 2. A-t-il un compte chez vous? Non. Ah, triomphe-t-il, vous voyez bien que vous pouvez trahir le secret bancaire quand cela vous arrange. Ce n'est pas un secret que de vous dire qu'il ne figure pas dans mes écritures. Vous ergotez, je raisonne. Alors, si vous raisonnez si bien, dites-nous l'intérêt qu'aurait eu Honorius à reconnaître votre implication dans cette affaire. Selon vous, il est riche, donc il n'a nul besoin de vos subsides. Et il était l'ami de Hess, comme vous étiez l'ami de Reinhard Heydrich. Il dit que vous l'avez présenté à Madame Goebbels, et il a l'air de bien vous connaître au point de se prétendre votre ami. Cela fait plutôt de vous un complice, car Monsieur von Adler, il est tout de même étrange que de Suisse se soit introduit dans l'entourage du second personnage de l'État et du chef de la sécurité du Reich, et que ces deux personnalités aient tenté de disparaître en prenant la fuite après leur forfait. En ce qui me concerne, je ne fuyais pas, je me rendais simplement à la gare. Et puis, les coïncidences, cela existe. C'est vrai, mais les complots aussi. Il se tait un moment, puis le reprend insidieusement. Ajoutons à nos soupçons votre intérêt pour Dietrich Bonhoeffer. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je commence à réaliser que l'étau se resserre dangereusement autour de moi. Numéro 1 et 2 s'en rendent compte bien, eux aussi. Vicieux mais pas idiots. Je feins de m'extasier. Félicitations! Je vois que vous avez su mettre à profit les quelques jours de mon isolement. Au fait, serait-il scandaleux de vous demander quel jour nous sommes et quelle heure est-il? Nullement. Nous sommes le 7 juin et il est 10 heures du matin. Je réalise que je viens de passer, ou de ne passer, que 5 jours de cauchemar. Mais alors, comment expliquer que mes interrogateurs disposent d'autant d'éléments sur ma vie? Ils connaissent ma relation avec Honorius, mon estime pour Bonhoeffer, et ma fréquentation de la famille Gaptzik? Mais alors, que ne me questionnent-ils pas sur Magda Goebbels, sur son mari, le ministre de la Propagande, ou sur Hitler lui-même? Après tout, j'ai passé bien plus de temps avec ces derniers qu'avec les personnes citées. Ces choses-là devraient aussi figurer dans leur dossier avec, par exemple, la poignée de main donnée par le Führer, parue dans le Völkischer Beobachter. À cette omission, je ne vois que deux explications. Ou ils veulent à toute force me perdre, ou quelques puissants personnages de la Gestapo, Müller par exemple, ou même Himmler, ont commandé et dirigé cette enquête et l'ont orientée en omettant délibérément certains faits. S'agissant du Reichsführer, l'intention, comme la mise en œuvre, me paraissent vraisemblables, et comme il ne manque pas de zélotes dans son entourage, il aurait fort bien pu passer commande de ses investigations. Dans ces conditions, il eût été bien trop dangereux de mettre en évidence mes relations avec Magda, le docteur Goebbels et surtout avec Adolf Hitler. L'interrogatoire se poursuit, mais il a changé d'orientation. Numéro 1 et 2 se sont mis en tête de creuser ma situation vis-à-vis de la famille Gaptic. Il n'est certes pas plus rassurant de les savoir convaincus de l'existence d'un vaste complot visant à supprimer le Reich protecteur, complot dont je serais, selon eux, complice. Connaissez-vous Joseph Gaptic? Non. Angela Gaptic? Évidemment, c'est ma servante. Rien d'étonnant à cela. Comment l'avez-vous embauchée? Cela remonte à plusieurs années. Quand j'ai acquis mon appartement à Prague, j'ai eu besoin d'une personne de confiance pour le tenir. Mademoiselle Gaptic présentait toutes les qualités requises. Elle vous a été recommandée, non? Oui, je l'ai déjà dit. Par Stéphane Bobek, effectivement. Dommage qu'il ne peut pas le confirmer. Monsieur Bobek est mort. Décidément, rien n'échappe à la Gestapo. Finalement, ce n'était peut-être pas une si bonne idée de citer un mort comme témoin. Je fins la surprise. Vous me l'apprenez. Mes deux interlocuteurs me scrutent un bref instant, puis reviennent à la charge. Angela ne vous a jamais parlé de son frère Joseph. Jamais. Cela ne vous a-t-il pas paru étrange qu'elle se soit absentée le jour de l'attentat? Je corrige. La veille de l'attentat. À parler franchement, son absence m'a contrarié. Contrairement à ses habitudes, elle ne m'a pas donné signe de vie, ni ce jour-là, ni depuis. Je ne l'ai donc pas revue depuis le 25 mai. Vous avez cherché à savoir? Vous vous êtes inquiété? Vous vous êtes enquis auprès de sa famille? Non. Bizarre, n'est-ce pas? D'autant que vous prépariez alors votre fuite, ou pour utiliser votre langage d'espion, je ne suis pas espion, votre repli. Avouez que cela n'a pas de sens de partir à Zurich sans avoir revu votre gardienne, sans lui avoir donné vos consignes. Mais puis-je vous faire remarquer que devant effectivement partir le 27 mai, sans avoir revu Angela Gaptic, si vous voulez, donc devant partir ce jour funeste du 27 mai, j'ai remis mon voyage à plus tard dès que j'ai appris la sinistre nouvelle. Numéro 2, un mauvais sourire. N'êtes-vous pas plutôt resté pour protéger la fuite des terroristes, pour vous assurer de leur mise en sécurité? Car vous n'avez même pas défait votre valise, et cela, nous le savons. Comment connaissent-ils ce détail? C'est plutôt inquiétant, d'autant qu'il poursuit. Et 4 jours plus tard, vous vous éclipsez sur la pointe des pieds, toujours sans vous inquiéter du sort d'Angela Gaptic. Vous êtes vraiment un curieux personnage, monsieur von Adler. Comme je me tais, il poursuit. Ce qui est fâcheux pour vous et flagrant pour nous, monsieur von Adler, c'est que tous ces détails, tous ces indices, mis bout à bout, témoignent contre vous. Ainsi, après un premier interrogatoire, où vous vous montrez convaincant, vous vous hâtez de fuir, au lieu de faire le point, de tenter de vous disculper. C'est numéro 1 qui parle. Cet homme sans son professionnel. Il est bien loin de me porter de la sympathie, mais ce n'est pas un monument de haine, et confusément, j'ai l'impression que si je me montre coopératif, il me sera plus favorable que son collègue. Une seule porte de sortie, étroite et incertaine, se présente à moi. Je me tais, réalisant que rien, dans ma défense, ne pourra les convaincre de mon innocence. Tout au plus, des circonstances atténuantes pourraient être trouvées à mon inqualifiable conduite. Je l'observe intensément et étrangement, comme s'il lisait mes pensées, numéro 1, tente une ouverture. Je veux bien croire que vous n'avez pas voulu, de manière délibérée, la mort de celui dont vous dites avoir été l'ami. Je veux même bien croire que vous avez été abusé, manipulé, utilisé. Mais n'essayez pas de clamer votre innocence et ne tentez pas de nous flouer avec une de ces fables pour enfants. Je vais donc vous faire une proposition. Nous allons vous laisser 10 minutes pour vous reprendre, pour réaliser l'énormité de vos mensonges. Si vous revenez à de meilleures dispositions, si vous réussissez à nous convaincre de votre bonne foi, nous demanderons nous-mêmes qu'il en soit tenu compte et qu'on mette en balance votre faute et tout ce que vous avez fait pour l'Allemagne, car nous savons aussi que vous nous avez rendu par le passé quelques services. J'étouffe un soupir. La voici sans doute ma chance de gagner du temps. Le temps, l'obsession du désespéré, du condamné à mort qui, la tête sur le billot, espère encore que le bourreau n'élèvera pas sa lourde hache ou que celle-ci, même dressée, ne va pas s'abattre sur son cou pour le trancher. Le temps, si souvent décevant, mais parfois compatissant, le temps dont le débit échappe à notre contrôle, quoi que nous en pensions, quoi que nous fassions, ce temps, ultime et vaine espérance de l'homme au pied du mur. Les deux numéros se lèvent et disparaissent, un garde armé d'une mitraillette venant prendre leur place sans que quiconque ne s'avise de me faire asseoir. Je n'y prête aucune attention, concentré sur l'aveu que je dois leur faire pour m'épargner des tourments immédiats, quitte à en payer des intérêts plus tard. Dans cet esprit, je comprends que pour recouvrer un semblant de crédibilité, il me faut lâcher du lest. En d'autres termes, seul l'aveu de quelques fragments de vérité, évidemment vérifiables, va me permettre de semer le doute dans leur esprit. Mais je dois naviguer entre plusieurs écueils, celui des mensonges, aisément décelables, celui des réalités, trop rapidement identifiables. Je dois suivre la voie étroite d'une crédibilité progressivement rétablie, ni trop vite, ni trop lentement, avec en conclusion une forte révélation impossible à vérifier. Soudain, un éclair, une illumination. Les paroles de Honorius me reviennent en bloc. Tragique méprise, fausse accusation. Le mage avait prédit mes problèmes avec Londres, et qu'avait-il dit ensuite? Situation périlleuse et un mensonge, c'est cela. Je ne pourrais m'en sortir que par un mensonge. Je vais tenter le coup. Après tout, dans la position où je me trouve, je n'ai plus grand-chose à perdre. Il me vient alors l'idée de me poser en professionnel, de me donner la qualité, que je n'ai pas, d'officier de renseignement, de tricher sur mon rôle et ma valeur marchande, de devenir en quelque sorte le collègue des frères numéros. Si je parviens à cette gageure, il y a fort à parier qu'ils vont me traiter différemment parce qu'ils m'admettront dans leur monde. Ils vont comprendre qu'il ne servira à rien de me rudoyer, de me brutaliser. Ils vont peut-être admettre que la monnaie d'échange que je représente dépasse leurs compétences et qu'ils devront en référer à une autorité supérieure. Or, si je dois me sortir de cet horrible piège, ce sera par le haut, car c'est au sommet de l'État nazi que se trouvent mes relations, à commencer par Hitler, qui ne peut accepter si facilement ma disparition au risque de tout perdre en Suisse. Il faut que je parvienne au moins jusqu'à Schellenberg. Je vais donc reconnaître que je travaille pour un service d'espionnage. Je vais me faire espion pour les besoins de ma cause. Je gage que cet aveu les marquera d'autant plus qu'ils le recevront brutalement. Il me faut donc un choc pour les surprendre. Dans des situations désespérées, c'est toujours de la surprise que vient le salut. Et puis, après tout, plus ma confession sera énorme, plus forte sera leur obligation de faire remonter l'information à un niveau élevé. Dès que ma résolution est prise, je me sens déjà un peu mieux. Les voici de retour. Vaguement ennuyés, mais appréhendant probablement ma résistance, la plupart des prisonniers retrouvant dans ces interruptions la force de nier, le goût du combat, sinon l'espoir de la victoire. On pourrait se demander au passage pourquoi les tortionnaires de la Gestapo ménagent-ils de telles pauses à leurs victimes, car, après tout, ils pourraient facilement se relayer et pousser leur avantage le plus rapidement possible. Je sais aujourd'hui que cette procédure est imposée par la hiérarchie qui a parfaitement compris que tout relâchement de l'étreinte, si elle offre un répit et stimule la combativité à court terme, affaiblit à la longue les défenses, parce que plus dure devient la chute dès lors qu'elle reprend après avoir été suspendue. Ils prennent leur temps et je les regarde s'installer, feignant l'indifférence à ce qui va m'arriver. Je sais que l'annonce, qu'ils n'attendent pas, va les contraindre à se donner et à me donner de nouveaux délais. À partir de maintenant, et pour quelque temps, je redeviens le maître du jeu, et tel est le fait nouveau de cette seconde manche. J'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit, et j'en conclus que vous avez raison. Il serait stupide de ma part de nier l'évidence. Vous avez gagné, je vous en donne acte. Leur stupéfaction fait plaisir à voir. Ils ne laissent ni l'un ni l'autre l'incrédulité s'installer. La soudaineté de leur victoire les convainc de leur habileté, et ils m'en deviennent presque reconnaissants. Paradoxalement, la certitude de ma turpitude fait tomber une grande partie de leur hostilité. La muraille de haine qu'ils ont dressée devant moi se fissure et j'en reçois la première preuve lorsque numéro 1, celui qui me semblait pourtant plus hostile, me dit presque gentiment « À la bonne heure, je vois avec plaisir que vous êtes un homme intelligent. Nous allons vous écouter. Garde, donnez une chaise à monsieur. Voulez-vous un verre d'eau ?» J'accepte volontiers le rafraîchissement comme le changement de ma condition de victime expiatoire à celle de prisonnier de guerre. Vaincu, mais pas déshonoré. Je prends mon temps, sans abuser, avec la discrète confirmation de mon intuition, numéro 1 et numéro 2 attendent mes révélations avec fébrilité, leur triomphe étant désormais acquis. Je commence mon récit. Je dois remonter quelques années en arrière. J'ai fait la connaissance, pendant mes études en France, d'un étudiant anglais avec lequel ma relation s'est affirmée au fil du temps et nous sommes devenus amis. Nous partageons les mêmes goûts, de la grande musique à la politique, et sur ce dernier point, nous nous accordions à penser que la renaissance d'une Allemagne forte était une condition sine qua non à la paix mondiale. Pour mieux vous permettre de situer notre convergence, ce Britannique était un proche de Neuville-Chamberlain, mais un proche discret, si discret qu'il n'apparaissait jamais publiquement aux côtés de son grand homme. Je me demandais d'ailleurs pourquoi, jusqu'au jour où il m'a avoué deux choses. Son homosexualité et son appartenance à l'Intelligence Service. Je les vois hausser d'un cran leur attention. J'ai bien distillé mes aveux. Celui de l'anomalie sexuelle de mon imaginaire ami anglais rend plus crédible le second, sa qualité d'officier de renseignement. Car si j'avais inventé un tel personnage, pourquoi irais-je en faire un inverti, un de ces êtres impurs détestés par les nazis et qui méritent leur enfermement dans les camps de travail? Heydrich, que vous dites avoir bien connu et qui était votre ami, connaissait-il l'existence de cet anglais? Bien sûr, je mentis sans vergogne. Reinhardt mort, il pourrait difficilement me contredire. Je poussais mon avantage. Il m'a même encouragé à entretenir mes relations avec cet agent britannique, ce qui s'est avéré, comme vous le constaterez, fort utile pour la suite. Donc, cet ami, Alistair Douglas, a entrepris de me recruter et je dois vous avouer que j'ai fini par me laisser convaincre parce qu'alors, Chamberlain défendait l'idée qu'il fallait s'entendre avec l'Allemagne et qu'indirectement, en agissant sur Alistair, nous pouvions, Heydrich et moi, influer sur sa politique en ce sens. C'est exact et sa mort prématurée nous a beaucoup desservi. Numéro 2 vient de me donner acte d'un point important. Le signataire des accords de Munich jouit encore d'une bonne réputation en Allemagne nazie, au contraire de ce bout de feu provocateur de Churchill. J'en remets une couche, prématuré et suspecte. Le regard qu'il m'adresse est tout de connivence. À vrai dire, il s'en veut probablement de ne pas y avoir pensé lui-même. Je poursuivis ma fausse confession. La mort de Chamberlain est survenue au pire moment pour les Allemands, quand il fallait composer au lieu de s'obstiner, quand la voie était ouverte à la collaboration anglo-allemande qui aurait assuré à ces diarchies la suprématie dans le monde avec cette distribution équitable. Les espaces continentaux, de l'Atlantique au Pacifique, aux forces de l'Axe, les espaces maritimes, y compris les Amériques, aux Anglo-Saxons. C'eût été un nouveau partage du monde, somme toute raisonnable. Puisque je suis entré en plein délire, autant continuer. Recruté donc par cet ami, je suis entré au Special Operations Executive, le fameux SOE britannique fondé par Sir Neville. Cette intégration m'a été d'autant plus facile que j'avais, grâce à Alistair, eu à assister le Premier ministre britannique en préparation des discussions de Munich. Ma qualité de Suisse me faisait passer inaperçu, mais vous trouverez trace de mon passage à Prague chez le président Édouard Beneš en personne. Voici une chose qu'ils pourront vérifier. Ah, vous connaissez donc Beneš? Je ne veux pas vous le cacher plus longtemps, pas davantage que je ne vous dissimulerai qu'il est devenu depuis lors une de mes relations. Vous avez donc compris comment et par qui j'ai été amené à collaborer à une opération qui visait non pas du tout assassiner Reinhard Heydrich, cela je ne l'aurais voulu pour rien au monde, mais à lui adresser une mise en garde. Une mise en garde? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Beneš tenait absolument à préserver la vie d'Aloïs Elias, qui, comme vous le savez, était un agent des services secrets du gouvernement en exil et qui venait d'être condamné à mort. Décidément, Honorius serait fier de moi. Un mensonge dans le mensonge. Alors, on avait contacté Heydrich pour lui proposer un marché. Aloïs Elias, en échange d'un arrêt des actes de sabotage dans les usines d'armement tchèques. Vous en êtes sûr? Oui, parce que Beneš m'a fait son émissaire. De mieux en mieux, j'irai directement au paradis des affabulateurs. Et qu'avait répondu le Reich protecteur? Vous le connaissez, il a refusé tout net. Et donc Beneš a décidé de le liquider. Mais non, voyons, puisque je vous dis qu'il cherchait à sauver la vie d'Aloïs Elias. Il savait bien qu'en exécutant Heydrich, il signait l'arrêt de mort de son homme, et probablement celui des centaines de Tchèques innocents. Non, non, son idée était de donner un avertissement fort à Heydrich, sans victime collatérale. Et surtout, de lui donner matière à réflexion pour reconsidérer sa position. Un et deux écoutaient avec une attention extrême. Et vous deviez participer à cette mise en scène? Je soupirais lourdement, la mine accablée. Pour mon plus grand malheur, oui. Je dis cela en prenant l'air le plus misérable possible. Silence, mes interrogateurs sont sous le choc. Mais j'avais une bonne raison à cela, m'exclamai-je aussitôt. On vous écoute. Comme je vous ai dit et redit, et comme probablement vous le savez très bien, Heydrich était mon ami, un ami proche. Reinhard était d'une témérité personnelle telle que celle-ci relevait plus de l'imprudence que du courage. N'importe quel officier se déplace avec une escorte dans Prague. Lui, le Reich protecteur, le chef de la sécurité du Reich, ne voulait d'aucune protection. C'était de l'inconscience pure et je voulais y remédier. Il pouvait être la cible facile pour un déséquilibré ou un désespéré, sans même parler de ses ennemis. Les Russes n'hésitent pas à liquider leur propre chef, alors un dirigeant nazi. Je pensais sincèrement que cet avertissement sans frais de Beneš pourrait lui servir de leçon et le convaincre de prendre sa propre sécurité au sérieux. Et même s'il continuait à vouloir faire du zèle, Hitler, après un attentat manqué, ne lui permettrait pas. Il ne sortirait plus jamais sans une solide escorte. Et vous avez cru Beneš? Mais oui, et j'avais de bonnes raisons à cela, comme je viens de le dire. Jamais il ne risquerait d'exposer aux représailles allemandes ses propres compatriotes, sans parler de la vengeance des SS sur son espion. Nous avons donc mis au point une opération d'intimidation avec la bénédiction des Anglais. Et donc, sans qui numéro 1, je tentais le tout pour le tout. J'avais appris que le premier des exécuteurs avait une mitraillette anglaise, mais qu'il n'avait pas tiré. Ce n'était que des bruits de couloir, je décidai donc d'y aller progressivement. Vous avez remarqué que le premier tireur, qui devait être le seul, était armé d'une mitraillette Sten. Effectivement. Bien, je pouvais essayer de placer la deuxième partie de l'information qui circulait en prison. Celle-ci devait s'enrayer, et c'est bien ce qui s'était produit. Mon souffle restait suspendu. Si c'était une fausse rumeur, c'était la fin. Continuez. Je réprimais un soupir de soulagement. À Pancrate, les détenus étaient manifestement bien informés. Malheureusement, un second terroriste est intervenu, celui-là armé de deux grenades. Or, sa présence n'était pas prévue, ou du moins, nul ne m'en avait parlé. Je me suis fait doubler, je l'avoue. Moi aussi j'étais manipulé, tout comme Beneš. Les Allemands étaient stupéfaits. Je me décidai pour le coup de grâce. C'est un coup tordu de Churchill. Il a profité sournoisement de toute cette mise en scène pour changer le but de la mission et pour liquider Heydrich. Il nous a doublés, Benesch et moi. Je sortais mon argument massue. Pour le premier ministre britannique, Reinhard Heydrich était un ennemi redoutable. Il craignait son intelligence, sa détermination et son efficacité. Il voulait se débarrasser de lui pour ne pas devoir l'affronter en France, où le Reich protecteur devait prendre ses nouvelles fonctions. Vous savez cela? Oui, et Churchill aussi. Alistair me l'a dit. Je vois que la dernière confidence de Heydrich produit son effet. Reinhard me sauve peut-être en ce moment même la vie. Je regarde numéro 2, droit dans les yeux, tout en me demandant si je ne suis pas en train de croire moi-même à cette version dont les éléments ne s'emboîtent finalement pas si mal les uns dans les autres. Je sens que sa conviction vacille. Il y a peut-être une chance pour qu'il avale mon appât. Pour un gestapiste, la découverte d'un complot ourdi à Londres pour abattre l'un des possibles héritiers du Führer représente une fantastique promesse de promotion. En même temps, une machination de cette envergure est, pour celui qui est en mesure de la dénoncer ou de témoigner, la meilleure assurance de sa survie. En d'autres termes, désormais, pour peu que numéro 1 et numéro 2 entérinent ma version des faits et qu'ils la fassent avaliser à l'échelon supérieur, je suis assuré d'être convenablement traité. Il faudra bientôt, en effet, me présenter devant l'opinion internationale, les journalistes allemands bien entendu, mais aussi les Suédois, les Suisses, les Brésiliens et même les Américains, et raconter comment j'ai connu Benesch, comment je suis rentré au SOE, puis pourquoi j'ai accepté de trahir l'amitié de Reinhard Heydrich jusqu'à superviser son exécution. Toute cette somme de confessions extraordinaires ne sera rentable que si j'apparais en bonne forme et si, au terme d'un accord prénégocié, je me prête au jeu des questions-réponses sans déraper de la ligne de mes aveux. La mise en scène s'avère délicate et l'enjeu formidable. La crédibilité de la Gestapo d'une part, du SOE de l'autre. Le prestige de chaque service est engagé, chacun sur un plateau de la balance. Si l'un augmente, l'autre baisse, et l'homme qui peut en décider est un banquier suisse, Gottfried von Adler.